Bon réveil à tous, voici le journal de François Chagnaud. Bonjour François.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous l'évoquiez à l'instant, la mort de Frédéric Mitterrand hier à 76 ans, portrait d'une personnalité politique et médiatique aux mille facettes dès le début de ce journal. Tout s'est passé comme prévu pour les sénateurs communistes hier. Ils mettent le gouvernement dans l'embarras après le rejet par la Chambre haute de la ratification du traité de libre-échange CETA hier.
À Bruxelles hier, l'Union européenne a ouvert la voie à de nouveaux financements pour armer l'Ukraine.
Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont prépare son retour fracassant sur la scène politique espagnole après 6 ans d'exil. Et puis, c'est le retour des rubans rouges à la boutonnière. Le SIDAction fête ses 30 ans. Après ce journal, vous nous poserez votre question du jour, Marguerite Caton.
L'eau doit-elle devenir plus chère ?
Frédéric Mitterrand est donc mort hier à l'âge de 76 ans. Il luttait depuis plusieurs mois contre un cancer agressif. C'est un personnage iconoclaste qui nous quitte, acteur, exploitant de cinéma, réalisateur, écrivain, parfois controversé pour ses récits de prostitution, de jeunes Thaïlandais, homme de télévision et de radio, y compris sur notre antenne, ministre de la Culture également, sous Nicolas Sarkozy. Maïwenn Bordron, vous revenez sur sa carrière singulière et éclectique.
Frédéric Mitterrand se disait fier de son nom qui le renvoyait sans cesse à l'image de son oncle paternel François Mitterrand. Un nom pourtant encombrant qui l'a amené régulièrement à devoir se positionner sur l'échiquier politique, comme il l'expliquait dans les matins de France Culture en 2013.
À 13 ans, j'aimais François Mitterrand qui était la statue du commandeur de ma famille et qui était le grand amour de mon père et dont on parlait sans cesse. Et j'admirais le général de Gaulle dont je venais de lire les mémoires. C'était compliqué.
Un nom, mais aussi une voix nasale et un bonsoir reconnaissable entre tous.
Et bonsoir.
Un bonsoir qui a rythmé de nombreuses émissions de télévision, du côté de chez Fred sur Antenne 2, par exemple à la fin des années 80. Frédéric Mitterrand anime également samedi l'après-midi sur notre antenne de 2006 à 2008. D'un objet de moquerie à l'école, il veut faire de sa voix une signature, racontait-il en 2013 dans les nuits de France Culture.
Chaque fois que je parlais, immédiatement en classe, tout le monde faisait « ouin, ouin, ouin » en se moquant. Et j'en étais évidemment très très froissé. Et je pense que j'ai eu le désir d'être entendu. Et donc, ça explique aussi le plaisir que je ressens à prononcer des discours ou à lire à haute voix. Parce que je crois qu'il y a là une soif inapaisée de poser ma voix.
En 2009, Nicolas Sarkozy le nomme ministre de la Culture et Frédéric Mitterrand n'hésite pas une seconde. C'est ce qu'il confie à Marc Vincher dans Les Matins en 2013.
Chaque fois que je rentrais dans le bureau d'un élu de gauche, il n'avait qu'une envie, c'est de me voir sortir. Tout ça parce que ça les embêtait qu'il y ait un Mitterrand qui soit là. Pour la droite, je devenais désirable. À un certain moment, le désir d'action fait que quand on m'a proposé le poste, je l'ai pris.
Après son départ de Valois en 2012, Frédéric Mitterrand reste en lien avec la culture. Il le fera jusqu'à la fin de sa vie. En février 2020, il avait par exemple été installé à l'Académie des Beaux-Arts.
La journaliste Laura Dler rend hommage à un passeur de culture. La ministre de la Culture actuelle, Rachida Dati, salue la profonde humanité et la douceur de son prédécesseur rue de Valois. Hommage et portrait de Frédéric Mitterrand à lire en intégralité sur notre site France Culture.
7h03, la suite du journal de François Chagnaud. C'est assez rare pour être signalé. Un débat a enflammé les bancs du Sénat hier après-midi.
Et l'étincelle provenait du groupe communiste qui a imposé un vote sur la ratification du traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Le CETA, il est appliqué provisoirement depuis 2017, mais les sénateurs n'avaient pas encore eu l'occasion de se prononcer. Alors hier, comme prévu, une alliance entre la gauche et la droite a voté contre la ratification de ce texte. C'est donc une déconvenue embarrassante pour l'exécutif qui n'a visiblement pas l'intention de se laisser faire, Rosalie Lafarge.
Les troupes présidentielles n'ont pas très bien vécu la journée d'hier au Sénat. Le sénateur Emmanuel Capus, soutien d'Édouard Philippe, ne s'en cache pas.
On est tombé dans un traquenard, un coup politique.
Et les communistes ne le nient pas, ce sont eux qui ont rivalisé d'ingéniosité pour permettre l'examen du texte. Eux qui, soutenus par la gauche et la droite, ont donc conduit à son rejet par la Chambre haute, provoquant, selon leur expression, un coup de tonnerre. Oui, c'est de la politique, assume le sénateur communiste Yann Brossa.
Il n'est pas interdit d'être un peu malin et un peu intelligent, et en l'occurrence mon groupe l'a été, et je pense que c'est une bonne chose.
Pas peu fiers de cette victoire, les communistes ont d'ailleurs rapidement imaginé la suite. Les députés se sont vus faire la même chose que les sénateurs. Ils ont annoncé leur volonté d'inscrire le texte à l'ordre du jour de leur temps réservé, le 30 mai, moins de 2 semaines avant les européennes. Sauf que pour ça, il faut que le texte issu du Sénat soit transmis à l'Assemblée, et le gouvernement a manifestement l'intention de se donner un peu de temps. Le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester.
L'Assemblée nationale aura
en son temps, bien évidemment, à de nouveau se prononcer le moment venu.
Et le projet de loi lui sera transmis le moment venu, ajoute un conseiller sans donner de date, mais en précisant tout de même, le moment venu, c'est quand on aura pu travailler, avoir un débat apaisé qui repose sur des faits, des chiffres clairs. C'est quand on sera sorti du temps politicien électoraliste qu'on connaît aujourd'hui.
Rosalie Lafarge. L'Union européenne en ordre de marche pour se doter d'une défense plus solide face à Moscou lors d'un sommet à Bruxelles hier. Les 27 ont favorablement accueilli la proposition de la Commission d'utiliser les intérêts des avoirs russes pour acheter des armes à l'Ukraine. Ils ont aussi ouvert la voie à des financements à plus long terme pour se réarmer et réaffirmer leur unité face à la Russie. Angélique Boin.
L'accord nécessite un ajustement avec quelques capitales dont Vienne, traditionnellement neutre militairement. Mais la présidente de la Commission se veut confiante. Une première tranche d'1 milliard d'euros, issue des intérêts des avoirs russes, pourrait être décaissée dès juillet. Les 27 sont aussi désormais unanimes pour que la Banque européenne d'investissement accorde des prêts aux industriels de la défense. La piste d'un grand emprunt commun n'a pas été formellement discutée. L'idée soutenue par Paris est encore loin de faire l'unanimité. Mais si les États-Unis lâchaient leur Europe, alors il faudra bien trouver des financements, a-t-il été souligné. Pour le président du Conseil européen, Charles Michel, l'Europe est en train de se réinventer.
Pendant des décennies, ce projet européen a été fondé sur la prospérité, sur la coopération économique, fondée sur des valeurs partagées, avec l'impression que la sécurité et la défense étaient dans les mains principalement de l'OTAN. Et je mesure bien le mot que j'utilise, je crois profondément que l'on assiste, au travers des décisions qui ont été prises aujourd'hui, à un réel changement de paradigme pour l'avenir du projet européen.
Les 27 ont aussi convenu d'ouvrir des pourparlers d'adhésion avec la Bosnie afin d'y contrer l'influence de la Russie et de l'arrimer à ce projet européen. Notre message est clair, a conclu Charles Michel. Nous sommes robustes et resterons unis face à Vladimir Poutine.
La correspondance à Bruxelles d'Angélique Boin. Pendant que l'Union cherche à ouvrir les vannes pour financer l'effort de guerre ukrainien, la présidente de la Commission européenne cherche à fermer le robinet des recettes agricoles russes. Ursula von der Leyen proposait hier d'imposer des droits de douane sur les céréales venant de Russie. Elles en sont pour l'instant exemptées. L'Union importe 10 fois plus de céréales russes que de céréales ukrainiennes. L'ONU pourrait enfin entériner le principe d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Le Conseil de sécurité se prononce aujourd'hui sur cette résolution américaine. Le secrétaire d'État Anthony Blinken se rend d'ailleurs en Israël aujourd'hui pour tenter d'arracher un accord de trêve à Gaza. Pendant ce temps, les forces israéliennes poursuivent leur assaut autour d'Al-Shifa, le plus grand hôpital de l'enclave. Elles affirment y avoir tué plus de 140 combattants palestiniens depuis le début de la semaine.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de François Chagnaud. Le chef de file des indépendantistes catalans prépare son retour sur la scène politique espagnole.
Carles Puigdemont sera de nouveau candidat aux élections régionales du 12 mai. Il vit en exil depuis 6 ans à Bruxelles car l'ancien président catalan fuit la justice qu'il a condamnée pour sécession après le référendum illégal sur l'indépendance de la Catalogne. En attendant l'adoption d'une loi d'amnistie, c'est depuis une petite ville des Pyrénées-Orientales que Carles Puigdemont a fait l'annonce de sa candidature, Henri de la Guérie.
Comme tous vous autres, le président Carles Puigdemont.
Accueilli par le maire communiste d'Elne et près d'un millier de sympathisants ayant traversé la frontière pour l'occasion, Carles Puigdemont a rapidement mis fin au suspense hier soir.
J'ai donc décidé de me présenter aux prochaines élections du Parlement de Catalogne.
L'ancien président catalan a confirmé qu'il ferait campagne à distance car l'amnistie votée par Madrid ne s'appliquera pas avant le début de l'été. Il ne rentrera à Barcelone que s'il obtient une majorité pour former un gouvernement. Son objectif n'a pas bougé d'un iota, obtenir l'indépendance.
Nous devons essayer d'obtenir un référendum d'autodétermination. Ce n'est pas plus impossible que l'amnistie, vous savez. Cette amnistie qui était soi-disant impossible et inconstitutionnelle. Donc voilà, la loi d'amnistie est tout aussi possible que le référendum.
Cette candidature pourra-t-elle remobiliser son camp? Certainement, estime Vincent Panabière, catalan du Nord, présent dans la salle.
On a vu un Carles Puigdemont très très combatif ce soir avec un message clair où il appelait à l'unité. Donc c'est vraiment une soirée qui lance la campagne de Junts per Catalunya. Mais le message qu'il faut vraiment retenir, voilà, c'est ça ce soir, c'est la volonté d'unité entre les indépendantistes de droite comme de gauche.
Mais l'unité, c'est un vœu pieux tant le camp indépendantiste est divisé. Les sondages pronostiquent aujourd'hui une victoire des socialistes. Carles Puigdemont et le président sortant, Pere Aragonès, indépendantiste de gauche, sont au coude à coude pour la deuxième place.
Henri de la Guérie. C'est le moment d'épingler le ruban rouge de la lutte contre le sida à votre boutonnière. Le SIDAction fête ses 30 ans, la grande campagne de dons débute aujourd'hui. En France, plus de la moitié des personnes séropositives sont étrangères, souvent originaires d'Afrique subsaharienne. Pour leur venir en aide, le SIDAction finance des associations qui ciblent ces populations migrantes. C'est le cas d'Afrique Avenir. Sa caravane de dépistage mobile se déplace tous les jours en banlieue parisienne et dans la capitale. Rémi Brancato a suivi une de ces actions de dépistage et de prévention.
Sur le parvis de cette gare RER dans le nord-est de Paris, les médiateurs interpellent les passants.
On propose aussi des préservatifs.
C'est possible de se faire aussi dépister gratuitement juste ici.
Carole, venue du Togo, coiffeuse, monte dans le véhicule.
Et votre test avec toi, moi ?
Oui.
Il était négatif ?
Oui.
Pas besoin de refaire un test rapide. Ce TROD qui donne un résultat en 10 minutes avec une goutte de sang, mais elle s'inquiète du comportement de son compagnon.
Il couche avec d'autres. Et des fois, il couche avec les filles sans se préserver. Je vois des amis qui se contaminent. Ça fait peur.
Mohamed, ivoirien, en France depuis 2 ans, sait, lui, qu'il a pris des risques.
Tu as couché avec des femmes, tu t'es pas protégé, tu sais pas, peut-être elles ont des maladies, ça peut arriver.
Il reviendra faire le test dans quelques jours en France, selon le SIDAction. 34% des nouveaux séropositifs sont arrivés récemment d'Afrique subsaharienne. Et c'est ici que la contamination intervient, souligne Thierry Miati, médiateur en santé pour Afrique Avenir.
Ces personnes ne cherchent pas à se faire dépister en arrivant. Nous avons des personnes, elles se trouvent dans la rue, ça génère des fois le sexe économique. Ils vont échanger une partie de leur corps contre un financement quelconque, sans protection.
Une précarité qui met la santé au second plan, alors les associations alertent. Si le gouvernement remet en cause l'aide médicale d'État pour les étrangers, les contaminations pourraient empirer.
Et demain, France 2 programme une grande soirée événement pour mettre à l'honneur la lutte contre le sida. Les dons se font sur internet, sidaction.org et au téléphone en appelant le 110. L'appel est gratuit. Jamais on n'avait observé autant de tortues s'échouer sur les côtes atlantiques françaises. Depuis le mois d'octobre, presque 150 tortues kawan se sont retrouvées piégées sur nos plages, jusqu'à 7 fois plus que d'habitude. C'est du jamais vu pour Florence Delamico du Centre d'études et de soins pour les tortues marines de l'aquarium de La Rochelle. Le coupable est clairement identifié, c'est le réchauffement climatique.
Ce qui va avoir un effet direct lié avec le dérèglement climatique, c'est qu'il va y avoir d'autant plus de tempêtes au large et d'événements qui vont faire que ça va être de plus en plus fort et de plus en plus rapproché, et ça peut conduire davantage de tortues à s'échouer. En fait, les tortues marines, elles sont pas capables de réguler leur température corporelle, donc elles ont la température de leur corps qui est celle du milieu dans lequel elles se trouvent. À partir de 15 degrés, elles commencent à rentrer dans un état de léthargie, mais à partir de 10 degrés, lorsqu'elles sont dans des températures à 10 degrés, eh bien, elles vont commencer à être complètement, effectivement, assommées, étourdies par le froid, donc elles vont flotter à la surface. Là, elles vont expérimenter le froid du vent, et elles peuvent inhaler de l'eau de mer qui peuvent les conduire à se noyer, et puis surtout, en fait, les marées et puis les vents de surface vont les pousser jusque sur nos plages, où là elles vont s'échouer et rencontrer des températures encore plus froides qui peuvent leur être létales, puisqu'à partir de 5-6 degrés elles meurent de froid. Donc certaines tortues sont retrouvées mortes et puis d'autres et principalement sont retrouvées échouées vivantes, mais dans un état d'hypothermie très avancé où il faut engager des soins rapidement pour pouvoir les réhydrater, les réchauffer et mettre en place des antibiothérapies qui vont leur permettre d'être soignées de leurs infections en fait. Et donc, je vous ai dit 146 signalements qui concernent les individus morts, les individus vivants. Là, dans le centre de soins, nous avons actuellement 91 tortues qui sont prises en charge et soignées.
La responsable du centre d'études et de soins de l'aquarium de La Rochelle, Florence Delamico, répondait aux questions de Véronique Rebérotte. Météo toujours printanière aujourd'hui, quelques nuages apparaissent sur les Hauts-de-France et la Bretagne. Il fait toujours chaud pour la saison, entre 9 et 13 degrés sur les trois quarts nord du pays, entre 15 et 20 degrés sur le pourtour méditerranéen. Je vous repasse la parole pour la suite des matins, Guillaume Erner.
Eh bien écoutez, je vous remercie François Chagnot. Dans quelques secondes, Marguerite Caton et sa question du jour, l'eau doit-elle devenir plus chère ?